Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
C'est à l'espace Bernanos, à Paris, que le mardi 17 octobre 2007, René Girard de l'Académie française, professeur émérite à l'Université de Stanford, a donné une conférence pour présenter son livre tout juste paru, Achevé Clausewitz. Il s'agissait de sa première conférence en France pour l'année 2007 et de la première sur cet ouvrage publié par une toute nouvelle maison d'édition, Carnet Nord, dirigé par Benoît Chantre, philosophe familier de la pensée et des travaux de René Girard. Canal Academy a enregistré cette conférence. René Girard poursuit sa réflexion sur la violence dans le monde, constatant qu'elle échappe maintenant à tout contrôle et menace la planète entière.
C'était un grand solitaire qui a passé sa vie à écrire son livre « De la guerre, vom Krieg » et qui ne l'a jamais terminé. En fait, il a dit, et on l'a beaucoup répété après sa mort, qu'il n'y avait qu'un chapitre terminé dans ce livre qui était le premier. Alors, ce premier chapitre, on en a beaucoup parlé, et à mon ami, à juste titre, parce que c'est un livre sur la guerre, mais il m'a intéressé tout de suite par cette définition des rapports des deux armées, des individus dans la guerre, n'est-ce pas, et du phénomène guerrier considéré comme un phénomène de rapport humain. Et c'est ce qu'il appelle la montée aux extrêmes. Et alors, ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas, mais c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est une rupture radicale avec la conception que tout le monde a, que tout le monde conserve aujourd'hui, des rapports humains. Au fond, les rapports humains, pour nous, ne sont pas vraiment problématiques. La psychologie des individus est problématique, hein. Il y a des gens qui sont un peu nos boucs émissaires et qui sont censés être malades. C'est pour ça que nous avons de mauvais rapports avec eux. Ils ont besoin d'être psychanalysés. Nous, jamais. Nous pouvons psychanalyser les autres, mais nous n'avons jamais besoin d'être psychanalysés. À mon avis, la situation des rapports humains est beaucoup plus simple. La violence, les mauvais rapports, n'appartiennent pas à tel ou tel individu, mais la violence est toujours située entre les individus. C'est la façon dont les rapports se gagent. Les rapports entre les hommes sont symétriques. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui offrez votre main, il la serre, etc. Nous échangeons des politesses. Le mot « échanger » dans les rapports humains joue un rôle extraordinaire. Nous pouvons échanger des politesses, nous pouvons échanger des insultes, nous pouvons échanger des injures, nous pouvons échanger des coups, mais nous échangeons toujours. Et cet échange ne va pas de soi, n'est-ce pas ? Cet échange n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas le choc de boules de billard sur un billard. Pourquoi ? Parce que chaque échange exige une interprétation. Les rapports entre les hommes sont forcément symétriques. Je vous tends la main, vous me l'attendez, et nous congratulons mutuellement. Mais il se peut que quelque chose ne marche pas. Il se peut, par exemple, que j'ai une distraction infime, que je ne vous vois pas, et je ne vous tends pas la main au même instant que mon partenaire le fait, que vous le faites. Et alors, évidemment, un malentendu peut s'établir, qui est toujours très, très difficile à guérir, à corriger. Les rapports humains s'abîment très facilement et ils se guérissent avec beaucoup, beaucoup de peine. Parce que nous avons toujours l'impression, bien sûr, que c'est l'autre qui a commencé. Et nous ne faisons que dire à l'autre que nous comprenons son hostilité. C'est-à-dire, nous avons l'impression de la lui rendre, mais d'une manière très, très modérée par rapport à la sienne. Il est froid envers nous. Nous sommes un tout petit peu froid. Mais de son point de vue, c'est l'inverse. Il voit toujours les choses comme nous, c'est-à-dire symétriquement, mais de manière à multiplier les malentendus. Donc les rapports humains sont une chose très difficile et exigent au niveau des individus comme au niveau des États une espèce de diplomatie. Et lorsqu'ils se gâchent, ils ont tendance à se gâcher de plus en plus parce que les relations s'interrompent. Et à partir de cela, n'est-ce pas, les fabrications augmentent et les rapports sont très mauvais. Et la raison, c'est que nous ne sommes pas des choses, nous interprétons toujours l'attitude d'autrui. Et il est très facile d'interpréter l'attitude d'autrui comme indifférence, comme insuffisante attention qui nous est prêtée à nous-mêmes parce que nous sommes en rivalité non seulement avec celui auquel nous parlons, mais nous sommes très sensibles à la façon dont il nous traite et au fait, par exemple, que nous nous considérons comme traités d'une manière injuste, pas à notre juste valeur. Nous avons l'impression que nos voisins sont pris plus au sérieux que nous-mêmes, etc. Les malentendus sont infinis. Et à partir du moment où le malentendu commence, il se double, n'est-ce pas ? Et il y a une espèce de montée aux extrêmes. Lorsque j'ai rencontré Clausewitz, je me suis dit, il y a là une possibilité peut-être de réponse à ceux qui disent que la théorie mimétique est entièrement fondée sur la littérature. Voilà un écrivain qui est très important et qui a été très mal jugé, mais aussi très bien jugé, et qui, de tous les stratèges, de tous les gens qui ont parlé de la chose militaire, est certainement le plus célèbre, le plus important de tous. N'est-ce pas ? Donc, cette montée aux extrêmes, à mon avis, caractérise fondamentalement les rapports humains. On monte aux extrêmes, on peut monter aux extrêmes, si on a beaucoup de chance, de l'amour, mais on monte beaucoup plus facilement aux extrêmes de la violence. Et chacun pense que l'autre est responsable, mais en fait, il y a un processus en miroir, n'est-ce pas, d'échange, qui fait que des deux côtés, la responsabilité, la même responsabilité est présente. Ce que nous ne voyons pas, c'est cette espèce de miroir de nos rapports avec l'autre. Le fait que nous reproduisons ce qu'il fait, mais chacun d'eux interprète l'attitude de l'autre comme une initiative. Nous nous jugeons toujours second dans nos rapports par rapport à l'autre. Nous répliquons et nous pensons répliquer de façon juste, c'est-à-dire conforme à l'offre qui nous a été faite par autrui. Mais autrui pense exactement la même chose que nous. N'est-ce pas ? Et le malentendu est extrêmement facile et les rapports ainsi finissent par s'aigrir. Il y a donc, au départ des rapports humains, des possibilités de conflits qui sont là et qui réussissent toujours à s'enflammer, s'envenimer, n'est-ce pas ? Ce qui fait qu'on peut se demander comment la société humaine a pu naître dans des conditions pareilles, n'est-ce pas ? Si on regarde la pensée de Clausewitz lorsqu'il réfléchit sur les choses, c'est un homme de 1801, très francisé par sa culture. C'est un homme qui croit au rationalisme des Lumières. Et si on le faisait parler sur les rapports humains qui ne sont pas ceux de la guerre, il nous dirait des choses très différentes de ce qu'il nous dit. Il ne nous parle que des rapports de guerre, croit-il. Ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'il parle de tous les rapports, au fond. N'est-ce pas ? De ces rapports qui sont tous mimétiques et qui ont tous, malgré tout, tendance dans les familles, dans tous les milieux humains, n'est-ce pas ? Il devrait y avoir une science des rapports humains qui ne serait pas considérée comme une pathologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Le tort de Freud, c'est lorsque Freud voit des problèmes entre les hommes, il dit il y en a certainement un des deux, peut-être les deux à la fois, mais au fond, jamais les deux à la fois. Parce que le médecin n'a jamais qu'un client dans son cabinet. N'est-ce pas ? Donc, il ne parle pas des rapports. Il minimise les rapports. Et il a l'impression, si vous voulez, que lorsque les choses ne vont pas entre nous, il y a forcément de la pathologie. Ce n'est pas vrai du tout. Et les hommes politiques, les religieux en particulier, ont toujours su que les rapports humains étaient extrêmement fragiles et toujours en danger. Et la société a des tas de procédés pour essayer de les améliorer, de les rendre plus faciles, etc. Je crois que la vraie initiative de mon œuvre, c'est de dire que le sacrifice est le principal de ces procédés.
Alors effectivement, de fait, dans le premier chapitre du traité de la guerre, Clausewitz fait fond tout de suite sur l'essence de la guerre, qu'il appelle le duel. Donc il fait fond sur cette notion fondamentale que tu viens de définir, qu'il appelle par ailleurs après Wechselwirkung, c'est-à-dire action réciproque.
Action réciproque.
Et qu'il va après se déployer dans cette expression apocalyptique et terrible de monter aux extrêmes. Donc si on définit la guerre, il faut la définir d'emblée comme duel, c'est-à-dire comme action réciproque, les armées s'observent, etc., se répondent, puis comme montée aux extrêmes. Donc si on saisit la guerre dans son essence, une apocalypse qui apparaît immédiatement. Et Clausewitz va, par un étrange mouvement, dont participe son rationalisme peut-être, essayer de contraindre cette intuition fulgurante que tout est d'abord duel, que dans l'échange des cadeaux ou l'échange des biens, il y a toujours un souvenir de l'échange des coups, que le duel structure secrètement tous les phénomènes sociaux. Il voit ceci apparaître, ce principe de réciprocité, et comme par un effet d'effroi, il le contraint, notamment en reprenant son traité, et en essayant de dire que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens.
Voilà, il nous dit qu'il a défini d'abord la guerre absolue, autrement dit dans l'abstrait, et que cette guerre n'existe pas, parce que la guerre c'est très compliqué, ça implique des tas de gens, etc., ça implique ce qu'il appelle de façon très moderne les frictions. N'est-ce pas, la guerre est comme une espèce de double machine. Chaque machine essaye de détruire l'autre, n'est-ce pas? Mais comme les machines, il y a des problèmes de graissage, les rouages marchent mal, etc. Il est extrêmement concret, Clausewitz. Par exemple, il attache une importance prodigieuse au fait que les troupes arrivent fatiguées ou fraîches sur un champ de bataille, n'est-ce pas? Ça fait toute la différence. Et très souvent, c'est la différence entre la victoire et la défaite, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas l'accuser d'être un type abstrait, un philosophe. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça. Mais c'est pas vrai. Et alors, cette immense originalité qu'il a, c'est de s'apercevoir qu'il y a dans les rapports humains quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'est pas dans l'individu, qui évolue, qui n'est pas immédiatement définissable, et dont il faut parler essentiellement. Donc, le livre est une enquête là-dessus. À mon avis, si Clausewitz n'a pas réussi à terminer son livre, c'est qu'il n'a pas réussi à définir la chose. Et c'est parce que lorsqu'il essayait de le penser globalement, il retombait dans les banalités de la philosophie des Lumières qui s'imagine que les rapports entre les hommes sont résolus une fois pour toutes, une fois qu'on s'est débarrassé des tyrans. On a toujours expliqué la guerre par des moyens différents à chaque époque. Hein. À l'époque de la féodalité, c'est la féodalité qui est responsable de la guerre. À l'époque des rois, c'était la royauté qui était responsable de la guerre, les histoires dynastiques, etc. Mais ce que Clausewitz sait, et il insiste énormément là-dessus, c'est que c'est la République française et la démocratie en général qui ont inventé cette institution qui est peut-être la plus terrible, la plus atroce du monde moderne, qui s'appelle le service militaire obligatoire. Vous savez, aux États-Unis, on enseigne Candide. Et Candide, c'est une caricature, une satire extraordinairement puissante et joyeuse et un chef-d'œuvre extraordinaire. C'est une caricature du malheur humain. C'est écrit contre le philosophe Leibniz qui dit « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». C'est Candide qui a pour professeur un leibnizien idiot qui répète « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Donc, il a tous les malheurs. Encore plus le professeur de Candide, Pangloss. Pangloss, ça veut dire il parle toutes les langues, n'importe quoi, mais il ne dit jamais rien de sérieux, n'est-ce pas? Et il s'imagine aucun des malheurs qu'il subit ne lui enseigne quoi que ce soit. Et alors je dis aux étudiants, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne au début? Parce que lorsque Candide est chassé, a le malheur d'embrasser la fille de son tuteur, parce que c'est un orphelin qui est élevé par un oncle extrêmement prétentieux qui ne veut pas que sa fille épouse quelqu'un qui n'a pas 12 quartiers de noblesse. En France, s'il suffisent, mais dans le Württemberg, il en faut 12, etc. Les Allemands sont absolument impossibles. Voltaire se moque d'eux de façon très méchante, au fond, parce que c'était vraiment la France qui était responsable de la pauvreté allemande encore au XVIIIe siècle. C'est la guerre de 30 ans. C'est-à-dire, ce sont les victoires de Richelieu qui, en Allemagne, dont les conséquences ont duré jusqu'à Napoléon. Et donc la France était le pays militaire par excellence, etc. Et il y a quelque chose qui devrait choquer les étudiants contemporains, c'est que Candide est d'abord victime de Frédéric II de Prusse. Voltaire avait de bonnes raisons d'être hostile à Frédéric II de Prusse, parce que Frédéric II de Prusse avait été littéralement amoureux de lui, il l'avait invité à Potsdam, voulait le faire patron de son académie, essayer d'imiter la France de toutes les manières, etc. Mais il s'était très vite fâché avec Voltaire, qui était d'un autoritarisme impossible, qui était le plus grand prince, au fond, du XVIIIe siècle, et qu'aucun prince ne pouvait dominer, n'est-ce pas? Et alors, les étudiants ne remarquent jamais une chose extraordinaire, qui est que Frédéric II ne peut pas enrôler de force Candide dans son armée. Il faut qu'il signe un papier. Il faut que des sergents recruteurs le fassent boire et lui fassent signer un papier. Parce qu'il n'y a pas de service militaire obligatoire. Aucun prince ne peut forcer un jeune homme à devenir soldat. Il n'y a que des volontaires. Alors évidemment, souvent ce sont de faux volontaires. Mais il faut quand même passer par cette formalité du sergent recruteur, etc. On ne peut pas les mobiliser. Et bien c'est curieux, les étudiants ne découvrent jamais cette différence. Parce qu'ils ont l'impression que le monde moderne est si supérieur au passé que cette invention horrible qu'est le système obligatoire, militaire obligatoire, a dû être inventée par les Mérovingiens. Pas du tout. Non, sous les Mérovingiens, les armées avaient 40 hommes, 80 au plus, peut-être 200 dans le cas de l'empereur Charlemagne, n'est-ce pas? Mais le peuple, je ne dis pas qu'il était tranquille et qu'il était heureux, mais on ne pouvait pas le forcer à se battre. C'est la Révolution française qui a inventé ceci. On ne nous le dit pas assez.
Et donc cette militarisation de la vie civile, c'est ce qu'on appelle la guerre totale, ce qui n'est pas la guerre absolue, faut pas, ce sont des réalités très différentes. La guerre totale qui implique la mobilisation totale, c'est ce que Clausewitz voit sous ses yeux quand il voit son armée prussienne vénérée tomber à Iéna. Nous sommes en 1806.
Voilà.
Donc en 1806, là, c'est l'extraordinaire coïncidence qui est au cœur de ce livre. 1806, Iéna, Hegel voit l'esprit du monde passer à cheval sous ses fenêtres, sous la figure de Napoléon. 1806, Iéna, Clausewitz voit passer...
Il adore Napoléon.
Voit passer le dieu de la guerre. Oui. Nous avons l'esprit du monde, nous avons le dieu de la guerre. Et 1806, c'est à quelques mois près par rapport aux intuitions fulgurantes de Clausewitz et de Hegel, c'est Hölderlin qui choisit, lui, un silence total de 40 ans. Donc il y a un formidable triangle qui est au cœur de ce livre, et tu as d'abord, avant de t'intéresser à Hölderlin et de révéler à quel point Hölderlin nourrit secrètement ton travail, réglé son compte à Hegel, et tu n'y es pas allé de main morte.
À l'optimisme hegelien qui nous annonce que plus il y a de guerre, plus il va y avoir de paix. On croit encore un peu ça dans le monde occidental, mais ça commence à marcher mal. Hein. Il y a des doutes quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au XVIIIe siècle, les maîtres de ce doute sont des gens comme Clausewitz et tout ça, et Hölderlin, et dont on n'a pas parlé d'eux. Et au fond, dans ce livre, nous les faisons passer au premier plan. Nous disons les vraies intelligences étaient eux, c'était pas la philosophie allemande. D'ailleurs, le malheureux Hölderlin, si vous voulez, a tant souffert qu'il a battu en retraite complètement. N'est-ce pas? Et il a, pendant 40 ans, vécu chez son meunier. Si vous allez à Tübingen, c'est aussi joli que possible, surtout au printemps et en automne, on voit ce moulin où Hölderlin a passé 35 ans dans la paix absolue, où il acceptait de recevoir les gens, leur parler très peu. Et on parle des années de folie de Hölderlin. Ça n'a aucun rapport avec la folie de Nietzsche, n'est-ce pas? Parce que Hölderlin récitait ses œuvres et parlait de façon très polie aux gens, mais ne voulait pas parler philosophie, choses sérieuses. Il n'y croyait plus.
Tu dis d'ailleurs une chose tout à fait magnifique et bouleversante au cœur de ce livre, c'est qu'il nous faut être ou essayer d'être à la hauteur du silence de Hölderlin.
Oui, voilà.
Parce que la pensée clausewitzienne de la montée aux extrêmes, du duel qui toujours ne peut pas se résoudre, te permet de poser un doute absolument foncier sur la dialectique. Il n'y a pas de réconciliation possible.
Mais c'est peut-être Hölderlin qui a raison et qui se tait. Tandis que nous parlons beaucoup et nous n'allons pas amener la paix au monde. Pas de doute, le monde n'est pas prêt pour ça, il n'a jamais été plus agité. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une période, nous avons l'impression, où une forme de violence est en train de s'installer, qui est au-delà de la période la plus terrible de l'histoire que nous venons de vivre, celle des guerres mondiales. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on a l'impression que la guerre est dépassée par le terrorisme, plus d'uniforme. Lorsque j'étais enfant, tout le monde s'indignait encore du fait que les civils étaient victimes de la guerre. Aujourd'hui, tout le monde considère comme parfaitement normal que seuls les civils soient victimes de la guerre, et en nombre gigantesque, puisque les bombes atomiques sont là, etc. Donc il y a une avance, une montée aux extrêmes constante, dont Clausewitz nous dit lui-même que la puissance de destruction des machines, des canons, etc. fait partie. Par conséquent, nous n'avons pas tort de prolonger sa pensée vers les bombes atomiques, etc. Il le fait déjà lui-même. Il a parfaitement conscience du fait que l'armement va progresser sans cesse dans l'avenir. Et chose étrange, il a un tempérament si bizarre, il est si prussien, il n'est pas méchant pour deux sous, mais il est si prussien qu'il aime la guerre parfaite. Et alors, il a une peur terrible qu'on retombe dans les guerres en dentelle, ce qu'on appelle en français la guerre en dentelle, n'est-ce pas, du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la guerre s'est en quelque sorte avachie. Clausewitz souffre énormément de ça. Donc il a vis-à-vis de Napoléon une attitude d'une ambiguïté, une attitude aussi mimétique que possible. Il a pour lui la haine la plus farouche et l'amour le plus passionné. Il parle des guerres de Napoléon comme un Français amoureux de Napoléon. Il y a deux Napoléons valables pour lui, c'est le premier. C'est celui des soldats sans chaussures du pont d'Arcole et de la campagne d'Italie lorsque Napoléon était très jeune. Et c'est à l'autre bout, le Napoléon de la campagne de France en 1814, n'est-ce pas, qui avec des troupes extrêmement diminuées, 25 000 hommes, tenait en échec les armées prussiennes, les armées autrichiennes et les armées russes qui avançaient sur Paris. Il y a des moments où nous montrons qu'il se met à la place de Napoléon. Il a dit, lorsque Napoléon a battu Blücher, qui était le meilleur puisque c'était le Prussien, à Montmirail, ou je ne sais pas, une de ces batailles de la campagne de France, tout de suite après, il a reculé pour se porter vers Schwarzenberg, le général en chef autrichien, n'est-ce pas, qui avançait sur Paris. Il s'est trompé. Il aurait dû continuer à poursuivre Blücher. Le Prussien, c'était le véritable adversaire. S'il avait forcé Blücher à repasser le Rhin, toutes les armées alliées repassaient le Rhin. C'était une nouvelle victoire du grand empereur. Il ne dit pas le grand empereur, il en parle tout ça, parce qu'en même temps, dès qu'il parle de Napoléon en bon terme, il ressort Frédéric de Prusse, qui est le génie absolu, mais aussi le prince parfait, etc. Et il essaye de nous dissimuler, en quelque sorte, son napoléonisme.
Oui, là, tu mets au jour une distinction que tu n'avais jamais faite dans tes précédents livres, ou alors je l'ai laissé passer, que tu appelles distinction entre le modèle rationnel et le modèle mimétique. Frédéric II est un modèle rationnel pour Clausewitz, mais il est un modèle mimétique infiniment plus fort pour Clausewitz qui est Napoléon.
Napoléon. Oui, oui.
Et on voit tous les efforts que fait Clausewitz dans le texte pour essayer de placer son Frédéric.
Et alors, évidemment, c'est de la critique littéraire, c'est lire Clausewitz, en critique littéraire, si vous voulez, on découvre toutes sortes de choses que les stratèges n'ont pas découvert parce qu'ils n'ont pas fait attention à la succession des exemples qu'ils donnent, à la façon dont ils les traitent. Et cette façon, je dis, c'est lui qui est le fondateur, d'une certaine manière, du mythe de Napoléon. Parce qu'on retrouve dans nos livres d'histoire, qui sont tous favorables à Napoléon, au fond, cette même structure du mythe napoléonien. Donc, le très jeune Napoléon est le dernier.
Ce que tu souhaitais pointer, et je trouve que tu l'as fait avec une force que on ne trouve pas forcément dans beaucoup d'autres livres, c'est le nœud franco-allemand à l'origine de cette impossible union de l'Europe, en quelque sorte.
Voilà.
Clausewitz témoigne par sa fureur et sa passion anti-française de ce nœud qui est là depuis la fin de Charlemagne, depuis voilà. Les petits-fils de Charlemagne. Comme si quelque chose se nouait entre les frères ennemis du début jusqu'à la fin de l'Europe, qu'on pourrait...
C'est ça, la guerre européenne, la guerre vraiment européenne, c'est-à-dire la guerre médiévale, après Charlemagne. Charlemagne a eu un fils, Louis le Pieux, qui est devenu empereur. En principe. Mais ces germaniques qui étaient les empereurs francs, ça on ne le dit pas trop en France non plus, ils étaient aussi allemands que possible, ils parlaient un dialecte germanique, etc. Louis le Pieux, lui, il a eu trois fils. Lothaire, qui était l'aîné, qui est donc devenu l'empereur. Louis le Pieux et Charles le Chauve. Et il a, selon la coutume franque, il a divisé son royaume entre ses trois fils. S'il avait été un bon empereur romain, il aurait eu le sens de l'État, comme les Français qui en héritent, et il aurait maintenu l'unité de son empire. Il y aurait eu un vrai empire. Mais en fait, il a donné la Lotharingie. Le mot Lotharingie finit par donner Lorraine. Et c'est le milieu. C'est ce qui va de la mer du Nord jusqu'au sud de l'Italie et qui est en sandwich entre ce qu'on appelait à l'époque la Francie occidentale et la Francie orientale. Et la Francie orientale était le domaine de Louis le Germanique et la Francie occidentale était le domaine de Charles le Chauve. Cet empereur était dans une situation très délicate. Vous imaginez à l'époque mérovingienne avoir un empire aussi filandreux que celui-là, très mince, n'est-ce pas, mais d'une longueur effrayante. Hein, il devait falloir 2 mois pour aller d'un bout à l'autre, n'est-ce pas. Il a très vite été battu par les deux frères coalisés, qui sont coalisés contre l'aîné. Louis, le futur Germain, le premier empereur d'Allemagne, au fond, et son correspondant occidental, Charles, le premier roi de France. C'est ce qu'on nous enseigne. Et c'est le premier document, c'est ça qui est extraordinaire, pour montrer notre parenté avec les Allemands, ce dont on devrait parler plus. Le premier document en langue française est aussi le premier document en langue allemande. C'est le serment de Strasbourg, qui est l'alliance, le texte de l'alliance de Charles l'occidental et de Louis l'oriental contre leur frère aîné pour détruire l'Empire. Ça s'appelle les serments de Strasbourg. Et comme les soldats ne comprenaient pas, ne se comprenaient plus des deux côtés, il est dans un charabia germanique et un charabia latino, franco, tout ce qu'on veut, qui est le premier document en langue française et le premier document en langue allemande. Donc cette union a un symbolisme incroyable. Parce que dès que Lothaire eut disparu, qu'est-ce qui se passa? Eh bien, la guerre franco-allemande, qui a duré jusqu'à 1945, commence. Il n'y a plus que deux frères, et ils ne savent faire qu'une chose, se faire la guerre.
Ça rappelle des souvenirs quand on a lu un certain nombre de tes ouvrages. Donc là, c'est très intéressant, c'est que c'est le René Girard chartiste, qui n'a jamais parlé de ce Moyen-Âge qu'il connaît par cœur, qui brusquement inscrit l'histoire de l'Europe dans la suite de cette scène primitive, voilà, dont l'aboutissement sera pour toi, et c'est quand même aussi le début de ton travail, c'est ton premier travail universitaire, le grand traumatisme de ta vie, j'ai envie de dire, la défaite de 1940.
La défaite de 1940.
Qui nous a donc fallu.
Le dernier épisode, pour l'instant, du grand duel franco-allemand qui dure depuis Charles le Chauve et Louis le Germanique. Mais à mon avis, il faut en voir le côté comique. C'est une histoire de double. Donc c'est la même chose qu'une tragédie grecque, mais c'est aussi la même chose qu'une comédie grecque. Dans une comédie grecque, ce sont des jumeaux qui s'affrontent. Et alors, c'est toujours le mauvais jumeau qui rentre et qui se trompe et qui épouse la femme de l'autre ou qui est invité à dîner par la femme de l'autre. C'est les comédies de jumeaux grecques. Mais les comédies de jumeaux et les tragédies, c'est la même chose. N'est-ce pas? La comédie et la tragédie, chez les Grecs, c'est la même chose. Et dans l'Extrême-Orient aussi, il y en a, c'est les mêmes choses. Ce sont deux êtres qui sont si opposés l'un à l'autre que loin d'être différents, comme on le dit aujourd'hui, ce sont nos différences qui nous séparent. C'est pas vrai, c'est notre identité. C'est pas vrai. On nous ment depuis toujours en faisant des philosophies de la différence, etc. C'est notre identité qui tantôt nous rapproche, tantôt nous sépare et fait de nous des ennemis inexpiables. N'est-ce pas? Ben, l'Europe, la lutte européenne, c'est ça.
Elle recule de ce duel fratricide, de présent, donc, des petits-fils de Charlemagne jusqu'au cataclysme du XXe siècle. Ce duel fratricide, une femme d'exception a tenté de l'enrayer, et d'autres, bien sûr, mais nous en avons suivi une contemporaine de Clausewitz, Hegel et Hölderlin, qui est Germaine de Staël. Car tu révèles aussi dans ce livre à quel point ton amour de la littérature du XIXe siècle est fondamental. Il y a quelqu'un de très romantique en toi. Tu lis Clausewitz par amour de Chopin. Et cette femme qui va visiter les grands Allemands est la première à tenter dans cette montée aux extrêmes dont elle voit déjà les prodromes de nouer un dialogue franco-allemand. Et donc ça te permet, suivre Germaine de Staël, de définir dans cet échec, on pourrait dire du catholicisme européen ou de l'idée d'empire, des figures exceptionnelles qui défendent une certaine catholicité. Il y a Germaine de Staël, il y a Joseph de Maistre, il y a Baudelaire, et quelque chose s'enclenche dans le dialogue que nous avons où tu te reconnais, t'identifies dans des figures qui ont tenté de sortir précisément de cette réciprocité pour penser une relation.
Voilà, pour penser une relation et pour essayer de retrouver l'unité. Et Madame de Staël, si vous regardez les manuels de littérature française, on se moque d'elle énormément. Parce qu'elle était au fond beaucoup plus puissante intellectuellement que Benjamin Constant. Et Benjamin Constant, d'une certaine manière, était subjugué par elle.
Napoléon aussi.
Et Napoléon la détestait tellement, mais à cette époque-là, le totalitarisme était encore bien bénin à côté d'une autre, puisqu'il lui avait interdit de venir à moins de 50 km de Paris. Il ne voulait pas la voir. Mais enfin, il n'a jamais ni emprisonné, ni etc. Mais Madame de Staël est puissante dans sa pensée. Pourquoi? Parce qu'elle est cosmopolite. Parce qu'elle va à l'étranger. Parce qu'elle connaît l'Allemagne aussi bien que la France. Il est impossible pour elle d'être contre un de ces deux pays où elle a vécu, etc. Elle est une leçon de cosmopolitisme admirable. Et aujourd'hui, rien n'est plus facile que de faire ça. Mais les touristes partent en troupeau, ils regardent des monuments qu'ils usent à force de les regarder, n'est-ce pas? Et sans jamais rien comprendre, sans entrer en contact, n'est-ce pas? Les gens ne se comprennent pas entre les différents pays, non pas parce qu'ils sont différents, mais parce qu'ils imaginent des différences qui n'existent pas. Les Américains, c'est ce que je leur dis, c'est vous vous rendez pas compte à quel point les Européens sont comme vous. Et c'est la même chose en France. On se trouve placé, si on connaît bien les deux pays, on ne peut pas choisir entre des pays qu'on connaît bien. Parce qu'on les aime autant l'un que l'autre. N'est-ce pas? Mais si on ne bouge pas de chez soi, on finit toujours par retrouver un point d'appui psychologique qui est trop facile pour l'esprit et qui nous aide, si vous voulez, à ne pas penser l'hostilité. Cette hostilité qui mène le monde depuis toujours et qui va devenir totalement destructrice si elle continue. Parce que ça, maintenant, nous le savons de source absolument sûre.
Oui, c'est là où le grand enjeu, enfin l'enjeu du livre est majeur. Raymond Aron a tenté d'achever Clausewitz quand il a proposé une reconstruction du traité tel que Clausewitz l'aurait repris s'il avait vécu, s'il n'était pas mort avant de le terminer. Donc Raymond Aron a tenté d'achever Clausewitz en en proposant une lecture hyper rationaliste pour essayer de conjurer cette intuition apocalyptique qu'il voit. Tu prends le mouvement inverse, en achevant Clausewitz à ton tour, tu révèles à quel point il a aperçu ce qui est peut-être en train d'advenir. C'est-à-dire le passage d'une ère de l'adversité, de guerre codifiée, puisque les guerres sont un symptôme sûr de la manière de gérer la violence des hommes, des guerres codifiées, donc d'une ère qu'on pourrait appeler d'adversité, à une ère de violence globale et imprévisible, oui. celle dans laquelle nous sommes entrés, où il y a peut-être moins de guerre, effectivement, mais où la violence est devenue planétaire.
Une espèce de métastase de la violence, comme un cancer qui se répand partout. Et la violence, la guerre n'est plus ni déclarée. Si on réfléchit à ces rites que sont les déclarations de guerre, les négociations, etc., déclarer la guerre à Al-Qaïda, à mon avis, était une erreur gravissime. Parce qu'Al-Qaïda, qui sait ? Nous ne savons pas si ça existe réellement. Nous n'avons personne avec qui négocier, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de possibilité. On est par conséquent dans l'inconnu total. À mon avis, il aurait fallu considérer, pour essayer de rester dans l'ère des guerres, et non pas de considérer les opérations antiterroristes comme des opérations de police. À partir du moment où on ne les considère plus comme des opérations de police, on reconnaît que le terrorisme est partout.
Dans Achever Clausewitz et dans cette couverture, beaucoup de gens me disent, en voyant ce titre sur deux lignes, voir d'abord Hiroshima, bien sûr, malheureusement, et voir non pas Achever Clausewitz, mais tout de suite, spontanément, immédiatement, Auschwitz. Je ne l'ai pas fait exprès, évidemment, toi non plus, mais tout se passe comme si, et tu le dis avec une crudité rare, le christianisme historique avait totalement échoué, puisque la révélation n'a pas été entendue, et qu'Hiroshima et Auschwitz se sont là pour nous signaler ce ratage. Et tu termines non pas par une... Je finis rapide, excuse-moi, pardonne-moi, non pas par une pirouette, mais en disant... Le christianisme est peut-être la seule grande force du christianisme, c'est que c'est peut-être la seule religion qui ait su prévoir son propre échec et que cet échec s'appelle
c'est
l'apocalypse.
C'est la seule force qui compte, n'est-ce pas ? C'est que le christianisme, d'une certaine manière, prévoit son propre échec et termine sur la fin des temps. Alors à partir de
je te laisse cinq minutes apocalyptiques. Pour ne pas trop terroriser la salle.
J'ose parler.
Et nous passerons après aux questions.
Si vous regardez les grands textes apocalyptiques, vous voyez qu'ils correspondent à l'impossibilité de terminer les luttes mimétiques. Et que les guerres n'ont pas de sens. Cité contre cité, nation contre nation. Mais il ne s'agit pas de donner des raisons ou de dire pourquoi on se bat. N'est-ce pas? Mais c'est toujours la symétrie qui l'emporte. C'est-à-dire les doubles. C'est-à-dire les adversaires qui ont tout en commun. Y compris la violence, et d'abord la violence. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent la même chose. Aujourd'hui, ils veulent tous la domination mondiale, n'est-ce pas ? Et tant que ça continuera, évidemment, nous irons vers la fin absolue. Parce que les armements et les méthodes, n'est-ce pas ? Si vous voulez, c'est la banalité la plus complète que de le dire. Le milieu terrestre n'est plus capable de soutenir la violence humaine, de la contenir. Nous sommes d'une certaine manière tellement religieux, d'une manière mauvaise et d'une manière inconsistante et d'une manière inconsciente que nous n'arrivons pas à comprendre que la Terre est menacée. Mais précisément, comprendre les textes apocalyptiques, c'est comprendre que le christianisme, alors échec relatif au niveau de l'histoire, n'est-ce pas ? Mais puissance absolument incomparable au niveau du religieux. Le christianisme, pour moi, c'est essentiellement et le maître de tout ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Dans la mesure où il sait très bien ce qu'est la crucifixion. Le christianisme, jusqu'ici, n'a pas de théorie de la crucifixion. Nous disons, et nous avons raison, c'est Dieu qui se sacrifie pour les hommes et qui, en se sacrifiant, abolit les sacrifices ordinaires. À mon avis, les sacrifices ordinaires, c'est toujours tuer des victimes en remplacement des proches. Chaque culture cherche des victimes sacrifiables. Et les victimes sacrifiables, ce sont les animaux, évidemment, mais ce sont aussi les hommes, les prisonniers de guerre. Par exemple, les guerres archaïques, comme les guerres des Aztèques, et tout ça, c'était pas des conquêtes territoriales. Il n'y avait pas d'administration, ça n'existait pas, l'idée de conquérir le territoire. C'était des recherches de victimes sacrificielles. Vous savez qu'au Mexique, on tuait peut-être 20 000 victimes sacrificielles par an. Pourquoi ? Pour maintenir la paix. On allait chercher ces victimes sacrificielles au dehors. dans des tribus assez lointaines pour ne pas être, si vous voulez, pour que les victimes ne soient pas assez précieuses pour qu'elles provoquent des bagarres entre ceux qui voulaient les tuer et ne pas les tuer. On tuait des enfants aussi, surtout les orphelins. Pourquoi ? Parce que les orphelins n'ayant pas de parents n'avaient pas de défenseurs. Il faut réfléchir à ces choses et comprendre, n'est-ce pas, à quel point la lutte de l'homme contre sa propre violence est quelque chose de terrifiant si on commence à la comprendre. On ne tuait pas les femmes, et en particulier les épouses. On tuait les jeunes filles, parfois, si le père permettait, comme Iphigénie, pour que le vent se lève et qu'on puisse partir chez les Grecs pour leur faire la guerre, n'est-ce pas ? Mais une femme mariée, il n'y a pas de... parce qu'elle est protégée par son mari qui est un guerrier. Le sacrifice est toujours en faveur du plus fort de la société, celui qui la protège, n'est-ce pas ? Et la plus grande catastrophe qui puisse arriver à une société, c'est si ceux qui ont la force, les guerriers, commencent à se battre entre eux. C'est la guerre civile. Le sacrifice est toujours un effort pour empêcher la guerre civile. Et il est lié à la découverte fortuite d'un bouc émissaire qui marche, qui rassemble tout le monde.
Alors le démontage de ce mécanisme par la révélation prive voilà. Les hommes de cet exutoire.
La révélation chrétienne est très tout simplement ce qui démonte ce mécanisme. Mais si vous regardez les grandes histoires bibliques qui précèdent, si vous regardez par exemple l'histoire de Joseph, c'est une histoire étrange, 11 frères contre le 12e, ça ressemble drôlement à une foule qui découvre un bouc émissaire. Et effectivement, c'est cela à mon avis. Mais dans la Bible alors, finalement, le bouc émissaire qui devient le roi d'Égypte pardonne à ses frères. C'est l'histoire la plus sublime, la plus archaïque, mais qui est aussi la fin de l'archaïque. C'est le devenir impossible du sacrifice, la Bible.
Cela dit, tu révèles et tu dis à quel point l'offre du royaume par le Christ...
Voilà. Alors l'offre du royaume, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi le Christ dit aux hommes au départ, il faut changer les rapports humains, il faut supprimer toutes les représailles. Et lorsqu'on vous frappe la joue droite, offrez la joue gauche. Pourquoi ? Parce que vous n'allez plus disposer du sacrifice. Si vous continuez après moi, parce que cette révélation, vous ne voulez pas la comprendre, mais d'une certaine manière, vous la comprenez un peu, et elle pénètre de plus en plus très lentement dans la société. Les sacrifices deviennent de plus en plus impopulaires, paraissent comme sauvages et tendent à être supprimés. Donc les sociétés sont menacées du dedans. Donc il n'y a plus qu'un remède à la violence, et c'est le refus. N'est-ce pas ? Donc la période chrétienne est la plus grande période de l'histoire. Celle que nous sommes en train de rater. Et ce ratage est prévu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont sauvés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce ratage est prévu. Mais ce ratage, je ne l'appellerai pas le ratage du christianisme. Je l'appellerai le ratage des hommes.
Du christianisme historique, je disais.
Pardon ?
Du christianisme historique.
Du christianisme historique, oui, si vous voulez, des églises, d'une certaine manière. Mais enfin, les églises sont comme tout le monde. Elles essayent de comprendre... Et elles comprennent quand même, d'une certaine manière, de mieux en mieux, que le christianisme, c'est la paix et le refus de la violence. Alors, il ne faut pas toujours se tourner vers le passé pour dire « Ah, mais le pape un tel, etc. » Bien sûr. Mais l'Église était quand même bien moins violente que les églises qui ont précédé. Ou que les Carthaginois, dont l'Église principale consistait à faire des sacrifices humains, le dieu Moloch, à brûler des victimes, il y a une descente constante de la violence dans l'histoire humaine. Une descente telle qu'aujourd'hui nous sommes menacés par le retour de flamme de notre violence, que nous ne sommes plus protégés en tant que nation.
Et donc la lecture de Clausewitz nous amène à prendre très au sérieux les textes apocalyptiques, en particulier ceux des synoptiques, et tu définis l'actualité effrayante des textes apocalyptiques, des trois premiers, surtout des trois premiers évangélistes, comme cette confusion du naturel et de l'artificiel. Les luttes mimétiques, nation contre nation, royaume contre royaume, auront des conséquences écologiques. Et cette apocalypse écologique qui est maintenant patente, voilà. Tu remontes à sa cause mimétique.
C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles on n'a pas pris, et on ne peut toujours pas prendre au sérieux les textes apocalyptiques, c'est qu'ils mélangent la nature et la culture. Ils mélangent les tempêtes de la mer avec les luttes des hommes, etc. La nature et la culture, on pourrait dire que la fonction de la science jusqu'à ce jour a été de distinguer complètement la nature de la culture. C'est pourquoi les scientifiques vous disent « la culture, c'est rien du tout, il n'y a pas de vérité et on n'a pas à en parler parce que c'est tout du mensonge, tantôt c'est ce mensonge-ci, tantôt c'est ce mensonge-là ». Mais ce sont toujours des mensonges religieux qui disent « il y a quand même une puissance au-dessus de l'homme ». N'est-ce pas, qui, sur le rapport de la violence, est plus forte que nous et détient le secret de notre destin, n'est-ce pas? Et alors, on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que cette distinction scientifique entre la nature et la culture est en train de se perdre. Si vous croyez au réchauffement global, demain, et déjà aujourd'hui, nous le savons, le niveau de la mer monte. Ce sera un phénomène naturel, mais ce sera aussi un phénomène humain qui ressemblera bougrement à certains passages des évangiles. Alors il faut cesser de croire que nous sommes... S'il y avait des hommes sur la Lune un peu plus intelligents que nous qui nous regardent, ils diraient « mais ces gens-là... ils sont menacés aujourd'hui, ils sont la première civilisation qui sache qu'elle est menacée par sa propre violence. » Et ils ont des textes qui parlent de cela. L'erreur des fondamentalistes américains, c'est de croire que la violence de l'Apocalypse, c'est la violence de Dieu. Seul Dieu a le droit de détruire le monde. Mais ça marche bien mieux, tous les textes cadrent les uns avec les autres, si nous comprenons que la fin du monde, c'est le châtiment d'une certaine manière de l'humanité, qui en est responsable, très visiblement, qui n'écoute rien des évidences qu'on lui assène, malgré tout, depuis une bonne centaine d'années.
Merci beaucoup, René.
Vous venez d'entendre la conférence prononcée par René Girard de l'Académie française à l'espace Bernanos en octobre 2007. Il était interrogé par Benoît Chantre, qui dirige la maison d'édition Carnet Nord, laquelle vient de publier l'ouvrage de René Girard, Achevé Clausewitz.